se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, bougez plus.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour et bienvenue sur RMC, RMC Story, la radio et la télé sur le canal 23 de la TNT, la radio vous connaissez, vous regardez vos fréquences et vous pouvez pendant 3 heures comme ça écouter les grandes gueules et surtout intervenir au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, à tes côtés, Thomas Porcher, professeur d'économie, bonjour mon cher Thomas.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Zora Bitton, cadre de la fonction publique, bonjour Zora.
Bonjour à tous.
Et puis on est content de retrouver notre camarade Johnny Blanc,
oui.
Notre fromager des Deux-Sèvres.
Bonjour à tout le monde.
En fait il nous dit qu'il bosse mais il est de plus en plus bronzé à chaque fois.
Mais tu sais, il fait beau. Tu sais que c'est presque le sud chez nous. On a passé.
Oui, les Deux-Sèvres.
On passe la Loire, c'est le sud.
Deux-Sèvres, Bidon.
En sous-tour, c'est fini. C'est,
ah, c'est ça.
Tiens, avant d'entamer nos discussions avec les grandes gueules, je vous donne un super rendez-vous à suivre la semaine prochaine avec les grandes gueules. La semaine prochaine, on sera tous GG avec nos petits camarades que vous pouvez regarder et écouter sur l'antenne d'RMC. Apolline de Malherbe, Vincent Moscato, Jérôme Rotten, Estelle Denis, Daniel Riolo. Ils viendront s'asseoir à la table des grandes gueules.
Ouais, les RMC, c'est une grande famille, on vous le dit régulièrement. Et là, on va le prouver parce qu'à partir de lundi, les stars d'RMC vont venir dans les GG. Mais vraiment, être grande gueule. Par exemple, Apolline, lundi, elle sera là à 11h. On pourra discuter un peu d'elle, etc. Interview. Et puis ensuite, elle participe au match. GG7 et match.
Donc, ah, super.
Et ça sera pareil avec Vincent Moscato.
Ils sont là les 3h. Ils sont là les 3h.
Non, non,
alors, 11h à midi.
Ouais, ah ouais, qui travaille un peu, surtout Apolline SF Tôt. Vincent Moscato, ça va être quelque chose. Jérôme Rotten. Je peux vous dire que Jérôme, il flippe déjà, hein, parce qu'on l'a croisé aux 15 ans de Moscato. Il dit, ah, les gars, vous, les sujets, vous nous les donnez avant. Hein. Estelle Denis, qui fera une bonne 11h, puis elle restera dans jusqu'à 15h. Ouais. Et puis Daniel Riolo pour terminer la semaine.
Et on a hâte, par exemple, d'avoir mardi prochain la rencontre Vincent Moscato, Sarah Salman.
Oui, là, le choc des mondes.
Ça sera sympathique. Vincent sera avec Étienne Liebig, Jean-Baptiste Gibari et Sarah Salman. Bon, on vous en reparlera, mais notez d'ores et déjà le rendez-vous.
Thomas, par exemple, et Zora, vous serez avec Estelle Denis.
Ah, super. Voilà.
Johnny, comme il vient une fois tous les 6 mois, bah tant pis.
Voilà.
La prochaine fois qu'il vient, toute la grille aura rechangé. Nous-mêmes, on ne sera plus là, d'ailleurs.
Les gens sont morts, tu sais, qu'on va se virer d'ici là.
Ah, ils sont partis à la retraite.
Bon, on vous en reparlera, mais notez bien, tous GG la semaine prochaine, les personnalités des shows d'RMC viennent s'asseoir à la table des grandes gueules et lundi, ça commencera avec Apolline de Malherbe. Allez, premier sujet de discussion, les dealers qui de plus en plus font parler d'eux au quotidien, font la loi dans des villes et là, on va s'intéresser à ce qui se passe à Nîmes.
RMC, les grandes gueules.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une journée sans que dans la presse locale, la presse quotidienne, via les réseaux sociaux, on trouve des faits marquants qui sont synonymes de ce qui parasite aujourd'hui, ce qui pourrit notre vie quotidienne, ce qui pourrit notre société, et ce sont les points de deal au quotidien. Et là, on est à Nîmes, avec la médiathèque qui est obligée de fermer parce que les dealers sont installés autour et même sur le toit, les autorités alertent, ne cessent d'alerter. Écoutez ce qui se passe à Nîmes.
Il y a eu énormément d'alertes qui ont été écrites, qui n'ont pas entraîné de réponse. En fait, ce droit de retrait, ils l'ont un peu exercé comme la dernière façon de s'exprimer.
Ils n'arrivaient plus à supporter la pression exercée à l'extérieur pour arriver travailler le matin, à passer des checkpoints avec des fouilles, des personnes des fois cagoulées, armées. Tout cela faisait qu'ils arrivaient au travail avec une boule au ventre.
Ça devient un territoire qui leur appartient. On tente de s'approprier ce territoire-là et c'est pour cette raison que les habitants ne sont pas chez eux. C'est eux-mêmes qui sont contrôlés. Et si vous êtes un consommateur, eh bien vous serez bien sûr reçu à bras ouverts pour repartir aussitôt avec votre produit.
Voilà, vous avez entendu les responsables de la mairie associatif. Un policier à Nîmes, la médiathèque Marc Bernard a dû fermer.
C'est le quartier de Pisevin. C'est un quartier sensible de Nîmes.
dans la périphérie de la ville, où il y a beaucoup de violences liées au trafic de drogue. Et on voit que les 18 agents du centre culturel de la médiathèque, en fait, étaient victimes de ces dealers. C'est-à-dire que pour aller bosser, il fallait montrer souvent les papiers d'identité. Il y avait même des palpations en pleine rue pour accéder donc à leur poste de travail, parce que l'endroit est investi par les dealers. C'est pas pour se cultiver que les dealers sont venus à la médiathèque, malheureusement, mais c'est parce que c'est pour gérer leur trafic. Alors tout le monde est au courant de cette histoire. Le maire de la commune, Jean-Paul Fournier, les forces de l'ordre, le préfet, et visiblement on ne peut pas empêcher ce qui se passe. C'est ça qui est assez incompréhensible. Même si du côté de la justice, on explique que les condamnations pénales pour trafic de drogue ne cessent de progresser. Il y a même une hausse assez importante depuis un an. Donc le préfet du Gard lui-même dit que on va intensifier la présence de la police nationale avec bien sûr la police municipale pour essayer quand même d'aller vers la réouverture prochaine de la médiathèque. C'est l'enjeu du moment. Est-ce que vous comprenez cette situation?
32-16 pour en parler avec les G et Johnny.
Non, ça c'est juste incompréhensible et inadmissible et insupportable. Mais je pense qu'on prend toujours le problème à l'envers. En France, il y a un truc qui fonctionne dans le commerce, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Moi, je connais pas un industriel qui a lancé un produit sur le marché s'il se vend pas et qui continue à le fabriquer. Donc, il y a un moment, il faut que tout le monde se prenne en charge.
Les consommateurs.
C'est-à-dire que les consommateurs, il serait peut-être grand temps de penser que le petit joint festif du week-end, même si c'est que le petit joint festif du week-end, ça pourrit la vie des quotidiens.
Il vient de quelque part.
Ça pourrit la vie des gens au quotidien. Donc, il y a un moment, je veux dire, si demain, il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'offre. Ce marché, il s'arrête. Donc voilà, il faut arrêter tout le temps. Oui, que fait la police? La police, elle fait ce qu'elle peut, je pense, parce qu'on a quand même des lois qui régissent notre pays qui sont quand même relativement strictes et le policier fait pas n'importe quoi. Donc ça veut dire que ses moyens sont très limités. Les trois quarts du temps, ils arrêtent les gens. Le juge les fout dehors dès le lendemain matin parce que ça fait 15 fois qu'il les voit, il sait plus quoi en faire.
Là, c'est pas vrai, puisque depuis un an, on a 138 jugements avec des peines qui sont allées jusqu'à 8 ans de prison.
138.
La justice, c'est
vrai. Oui, mais est-ce que c'est appliqué? Parce que là, c'est.
138 là, jugements sur 15 000 points de deal par jour. Enfin, il y a un moment, je veux dire, c'est de la roupie de sonner, parce qu'on en prend un de temps en temps, c'est pas ce qui va faire avancer la machine.
Alors on voit quand même que c'est vraiment un endroit que les dealers veulent gérer, et par exemple il y a un journaliste de M6 qui s'est fait quand même assez violemment agressé parce qu'il voulait tourner sur place, et il a été frappé debout et au sol par deux hommes qui ont ensuite pris la fuite.
Bah, en fait, la question du deal dans les cités, elle date, hein. Elle date pas d'hier, ça date depuis toujours. C'est la question de l'économie parallèle qui est tolérée, en fait. Parce que, évidemment, que si on voulait que dans ces quartiers, on prend un exemple, un quartier de 2-3 000 habitants où vous avez 100 dealers, si on ramène au pourcentage, on n'a pas la population qui deal. C'est une population qui, elle aussi, subit l'impossibilité de passer dans leur appartement par les cages d'escalier. C'est les squats, c'est le recrutement de jeunes mineurs pour faire les choufs, etc., etc. Donc, les jeunes ont même des sigles. Ils disent « Est-ce que TTP, donc temps plein, chouf temps plein ?» Enfin, ils ont créé une véritable économie, et c'est une économie sociale que l'État connaît, et il sait que si on retire cette économie sociale avec le taux de pauvreté qu'il y a dans ces quartiers, forcément, on n'a pas derrière l'armada nécessaire pour pouvoir répondre à toutes les problématiques. Donc, oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'économie parallèle, elle date. Non, mais si on veut arrêter le problème de la drogue, c'est 100 personnes dans un quartier. Il y a 3000 personnes. Il y a 3000 habitants, 2000 habitants, 1500 habitants, t'as 100 dealers.
C'est pas que l'économie parallèle, je pense que par rapport à ce qui pourrait exister dans le monde du travail, les mecs qui ont pris l'habitude de bosser...
Évidemment, bah c'est une économie parallèle.
Oui, mais d'accord, mais c'est même pas qu'une histoire d'économie parallèle qui fait vivre un quartier. C'est l'histoire que quand t'as commencé à bosser, je veux dire, on te dit t'as 1000 balles par jour, et que demain, il faut que tu retournes bosser pour 120 balles par jour, bah tu dis non, je vais continuer à faire ça.
C'est valable dans tous les univers. C'est valable dans les univers des affaires, c'est valable dans les univers... Il y a des gens en corruption, en politique, qui gagnent 7-8 000 balles par mois, et ils arrivent encore à détourner du pognon. C'est l'appât du gain. Donc, je vois pas pourquoi dans les quartiers populaires, ils seraient pas aussi, eux, attirés par l'appât du gain. Le problème de la drogue, c'est un, oui, il faut continuer à sévir, à punir et à faire en sorte que les gens soient effectuent leur peine, et il faut débarrasser tous ces quartiers de ces gens-là qui pourrissent la vie et qui entraînent des mineurs, ça c'est sûr, oui. Mais il faut que l'État arrête avec la complaisance de l'idée que l'économie parallèle répond à une question sociale dont, pour eux, ils n'ont pas la réponse. C'est ça, parce que ça date depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui.
Moi je te dis, la seule réponse possible, c'est ce que je dis, c'est la consommation s'arrête et tout s'arrête tout seul.
Ah oui, non, mais là,
la
Parce que ça consomme partout.
Ah ben d'accord, mais c'est facile. C'est la faute de la police, c'est la faute de l'État, c'est la faute de la mairie. C'est
la
faute de
la consommation. Il faut la légaliser et ça.
Voilà aussi.
On voit bien où ça se fait. Tout le monde fait marche arrière.
Un peu rapide.
Thomas Porcher. Ouais, en tous les cas, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le deal est de plus en plus visible.
C'est ça.
A toujours existé, mais avant il n'était pas visible de cette façon-là. Maintenant, il est vraiment visible.
Ah oui, les tarifs,
même dans Paris.
Oui,
dans Paris, vous le
bien
voyez
sûr.
Dans certaines rues comme ça où il y a beaucoup de monde, et là vous voyez un point de deal qui est très visible. Donc, moi je pense que c'est un problème vraiment multifactoriel. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites sur la police. Par exemple, on a retiré la police de proximité, qui savait ce qui se passait dans les quartiers, qui connaissait tout le monde, qui pouvait avertir des jeunes qui commençaient à déraper. Et maintenant, on ne sait plus. Donc, les quartiers sont devenus des quartiers où finalement les gens vivent entre eux, comme ça, où il n'y a plus de présence de l'État et où tout s'organise. Et après coup, l'État veut intervenir. Donc là, il y a ça. Il y a aussi un moment, et là tu l'as bien dit Zora, t'as tous les taux de pauvreté qui ont augmenté partout, et il faut quand même se poser la question, c'est comment ça se fait qu'à un moment l'économie informelle attire comme ça un certain nombre de jeunes, de plus en plus jeunes, et là c'est aussi un vrai problème structurel. Et puis après il y a comme tu dis l'offre et la demande, quoi, c'est-à-dire que
consomme partout.
Ça consomme partout. Dans donc il faut aussi responsabiliser le consommateur. Mais là le constat c'est que à partir du moment où tu déplaces des services publics comme une médiathèque. On a vu l'autre fois, moi j'avais vu un reportage sur, je crois que c'était Envoyé spécial, autour d'une école maternelle dans le sud de la France, des deals où l'école maternelle appelait l'État et grosso modo l'État dit on ne sait pas quoi faire. Voilà, là il y a un
donc
vrai problème.
Donc on ferme le service public.
Y a un recul effectivement de l'État et là c'est très problématique.
Bah tiens, on va prendre un témoignage tout de suite parce que dans ces cas-là, on peut compter sur ceux qui nous écoutent, qui écoutent les GG et qui sont sur place, qui voient ce qui se passe. C'est Sébastien qui est taxi du côté de Bellegarde dans le Gard. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Donc ça, bonjour, là, ce qu'on dit là sur ce qui se passe du côté de ce quartier Pissevin là, Anime, vous le voyez vous?
Ben moi j'y passe à peu près tous les jours puisque j'ai des clients à prendre en charge là-bas. Donc sachant que moi je fais pas mal de transport médical et moi je veux dire à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit à midi, en pleine journée quoi, je les vois. Donc je me dis c'est pas possible que la police et que les forces de l'ordre ne voient pas ces gens-là, parce que moi je sais ce qu'ils font. Donc à partir de là, il y a pas de souci. Et c'est vrai que même pour nous taxis, c'est des fois compliqué, puisque la dernière fois je me suis fait dégager à 5h de l'après-midi parce que je faisais le plein et que je dérangeais un groupe qui dealait sur la station de service.
Et comment vous faites dégager Sébastien? Je comprends pas.
En fait, j'étais dans la voiture, j'étais au téléphone avec mon patron et voilà, ils étaient là en train de dealer, donc en gros, ils m'ont demandé de raccrocher, de dégager, parce que j'ai merdé, quoi. Voilà.
Ah ouais, mais alors, ce qui veut dire que là où vous êtes, là, quand vous passez sur ce coin de Pissevin qu'on comprend bien, ça se fait comme ça en plein jour, au vu et au su de tout le monde.
Moi, je vois la médiathèque, en fait, elle est en contrebas sur une place, quoi, et nous la route est un petit peu en hauteur et on voit les jeunes qui sont assis sur les chaises, on dirait des hérons sur le pont, quoi, en train de faire les chauffes, quoi, tout simplement. Donc on sait très bien, ce qu'ils font, quoi.
C'est des mineurs.
Mineurs, majeurs, il y a un peu de tout, j'écoutais Johnny qui disait le problème c'est pas la police, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'effectivement les gamins c'est des gamins de 12-13 ans qui de toute façon sont relâchés 24 heures après le problème c'est qu'il y a rien qui se fait sur ces quartiers-là.
Mais le problème c'est que Sébastien,
50 000 balles par jour.
Mais oui, mais le problème, Sébastien, c'est que quand justement tous ces jeunes là qui vendent, quand ils se font arrêter, qu'ils ont quelques grammes sur eux, un petit peu, parce que justement ils sont les distributeurs de mecs qu'on voit pas sur le terrain, hein, parce qu'en fait on voit que les jeunes et puis les mômes qui vendent. Donc les mômes, tu les arrêtes, la police fait ce qu'elle peut, elle les arrête, elle les emmène au commissariat, ils vont en garde à vue, ils avaient 100 grammes de shit sur eux ou n'importe quoi, ils sont relâchés. Donc en fait c'est le problème, c'est clair que il faut justement s'attaquer à ceux qui fournissent, ou en tout cas qui organisent la distribution avec des mômes qui sont payés pour ça. Et tu commences par ça, tu disais faut enlever ceux qui consomment, mais tu commences par enlever ceux qui distribuent. C'est-à-dire si tu frappes fort,
ça ne sert à rien parce que t'en enlèves un, il en pousse deux. Je vais dire un truc, c'est
ça. Ça dépend, parce que
si un marché, tu ne supprimeras pas.
Si t'as 17 ans et si tu sais que tu vas manger cher, autant que celui qui distribue.
D'accord, mais tu mets au trou 6 mois celui qui vient acheter une barrette.
C'est quoi, le consommateur, c'est déjà un délit.
Oui, déjà.
C'est un délit. Tu payes quoi?
200 balles.
Voilà. C'est-à-dire que bientôt, moi, je fais un excès de vitesse, on me saisit ma bagnole. Par contre, tu peux acheter de la drogue comme tu veux, tu vas prendre 50 balles de purine, quoi. Donc, c'est quand même un peu n'importe quoi. Et en plus, quand on dit, tu les emmènes au commissariat, quand tu vois ce quartier qui représente, je crois, 12, 15 000 personnes, il n'y a pas de commissariat. Donc, il y a un moment, tu te dis, c'est quand même pas possible. Dans un village de campagne où il y a 2000 habitants, il y a une gendarmerie. Dans un village où t'as 15 000, où il y a des dealers de partout, il n'y a pas de commissariat.
Bah, voilà.
Donc, il y a un moment, peut-être, bah, faut se poser les bonnes questions aussi.
Bah, oui. Et en plus, il n'y a plus de police de proximité.
Non, non, c'est, moi, parce que Sébastien qui vient faire en tant que taxi le plein de sa bagnole, qui est toujours avec nous, Sébastien. Donc, c'est son gagne-pain.
Ouais, bien sûr.
Il est en train de faire le plan. On dit, garçon, tu dégages. Là, t'es chez nous. Je veux dire, c'est la tranquillité des habitants à laquelle il faut trouver une solution. Allez-y, Sébastien.
Juste une chose, c'est que quand alors, c'est pour le plein, mais des fois, dans certaines barres d'immeubles, quand on rentre chercher des patients, des gens malades, qui peuvent être les parents de ces gamins-là, quoi, hein, on est contrôlé.
Oui, mais moi, je pense que les Français ne comprennent pas.
Qui c'est que tu viens chercher, qui c'est que tu viens voir, qui c'est que tu machais. Une fois, on a été obligé d'appeler la patiente pour qu'elle dise aux jeunes de nous laisser passer pour aller la chercher, quoi.
Oui, donc c'est eux qui font la loi. Mais les gens ne comprennent pas, c'est que comme le disait Thomas, maintenant, ils se cachent plus.
Non.
Ils ont pignon sur rue. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on ne les arrête pas. C'est pas compliqué. Sur le principe, sur le papier, s'ils sont là, si on les identifie, s'ils sont obligés, ils font des palpations sur le personnel, la médiathèque qui arrive le matin. Et ce qui est incompréhensible pour les Français, c'est que finalement, il se passe rien.
Ce qui a été expliqué, la justice, chaque terme.
Tu vois comment
a rendu à fonctionner la justice en France. Je vais te citer un exemple qui n'a rien à voir avec la drogue. Je connais des gens, je vais dire un truc, qui font du motocross. Ils se font voler dans leur garage deux motocross toutes neuves. Le mec, il a une caméra. Tout est filmé. Donc, on voit les mecs dessus, on voit qui fait ça. Qu'est-ce qu'il fait dès le lendemain? Il met ça sur les réseaux sociaux pour dire comme ça, je vais vite retrouver mes motos. Mais en fin de compte, les flics arrivent chez lui, vous retirez ça tout de suite, vous êtes passible d'une amende de je ne sais plus combien, strictement. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quand est-ce qu'on va reposer les pieds sur terre en France et de se dire, oui, le mec c'est un voleur, oui, je peux l'afficher, j'en ai rien à foutre, c'est un voleur. Oui,
Sébastien, merci de votre témoignage, Sébastien. Bonne journée. Dans un instant, on va aller du côté de la Savoie avec Cédric, qui est un ancien policier et qui veut reparler de ce qu'il a connu. Quand il était justement dans la vie active policière, on disait non, il y a des quartiers, les gars, laissez faire.
Mais oui, mais
on va pas y aller.
Oui.
Et puis on a Wari qui est commerçant aussi en Seine-Saint-Denis et il dit bah oui, les dealers aujourd'hui malheureusement ils font la loi quelle que soit la ville. Allez, à tout de suite avec les JGG.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules à la radio, à la télé, les grandes gueules qui vont passer par la Savoie pour continuer de discuter de ces points de deal qui aujourd'hui pourrissent la vie des habitants des quartiers. On voit là encore l'exemple du côté de Nîmes avec cette médiathèque qui est obligée de fermer. Puis on avait Sébastien qui nous racontait qu'en tant que chauffeur de taxi, on l'avait fait dégager parce qu'il faisait son plein et qu'il embêtait les dealers qui étaient sur place. Bonjour Cédric.
Bonjour à vous.
Bonjour. Ancien policier pendant combien de temps, Cédric?
J'ai fait 5 ans, de mes 20 à mes 25 ans à peu près, ouais, c'est ça.
D'accord, alors quel quartier, à quoi vous vous êtes confronté, vous étiez où, dites-moi?
Alors moi j'étais en banlieue lyonnaise.
Oui.
J'étais en banlieue lyonnaise et
c'est vrai que... Pas mal
non plus. Il y avait du travail, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que, moi je suis resté aussi en contact avec des personnes avec qui j'étais en école de police, que j'étais d'ailleurs en école de police à Périgueux. Et en fait, on avait tous le même discours, le même retour. Et j'ai encore des collègues qui y sont, moi j'y suis plus, mais ils y sont encore et rien n'a changé. Parce que là, on parle d'il y a une dizaine d'années, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des endroits dans lesquels on avait la consigne ferme de pas y rentrer, quoi, en fait. Parce que, déjà, on avait un parc de véhicules assez vieillissant. Et puis rentrer avec des impacts de boules de pétanque sur le toit qui tombaient du troisième étage ou des micro-ondes qui volaient des toits des immeubles, etc. Bon bref, fallait pas abîmer les voitures plus qu'elles ne l'étaient. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc en fait, pour moi, il y a une espèce d'hypocrisie parce que c'est le même problème depuis toujours. Et que avec les solutions sont pas apportées parce que envoyer des CRS dans une ville et puis prendre le soin de le signaler aux chaînes d'infos en continu pour vraiment que le citoyen lambda s'en rende compte, c'est une chose. Mais ça reste de la communication parce que en réalité ça se passe même dans les villes moyennes aujourd'hui en France de partout.
Mmh. Surtout que la compagnie CRS que Darmanin va envoyer dans ce quartier de Pisevin,
il la prend ailleurs.
Il la prend ailleurs. Puis elle va pas rester à Villa.
Elle reste donc, pas, bien sûr.
Non, elle va rester là le temps que ça se calme, le temps que les médias effectivement se détournent de cette situation et puis.
Ouais, parce que le maire lui demande une affectation quasi permanente d'une compagnie.
Mais le problème qu'il y a c'est que ça demanderait des moyens qui seraient énormes. Mais après faut savoir ce qu'on veut.
Exactement.
Après, c'est un choix à mon goût politique pour que le policier n'y est pour rien en réalité. Il a des voitures, excusez-moi du terme, des voitures de merde, du matériel qui tombe en déconfiture, en plus de ça en sous-effectif, dans des endroits où il faudrait être en sur-effectif. Le policier n'y est pour rien en réalité. Lui, en file son uniforme le matin, il a déjà la migraine.
Mais Cédric, j'ai une question à vous poser. Ce combat contre la drogue, il semble perdu en fait. On a l'impression que c'est un combat sans fin. On dépense beaucoup de moyens quand même, même si on pourra mettre, mais on en dépense quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Les policiers se mobilisent et finalement on se rend compte que des points de deal, il y en a de plus en plus, même si Darmanin veut les démanteler à chaque fois, et que c'est un combat qui semble perdu. Donc est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, réfléchir sur ce combat? Qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on continue comme ça, mais dans 15 jours on aura une autre médiathèque, on aura un autre service public.
Mais si tu légalises le shoot, par exemple, on va créer une nouvelle drogue qui va arriver et qui sera plus intéressante et moins chère. C'est un jeu sans fin.
Est-ce que c'est pas qu'on a laissé pendant trop de temps la gangrène s'installer? Oui. Et bon, malheureusement, on peut pas retourner en arrière, mais est-ce que pour moi, c'est l'un des constats, c'est qu'on a laissé ça s'installer en fermant un peu les yeux, en ayant un peu peur de d'y rentrer, et puis maintenant, une fois que c'est installé.
Mais Cédric, c'est la question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix?
C'est quoi le prix?
C'est-à-dire des violences sans précédent. Du démantèlement total sur tout le territoire des pôles de trafic. Le prix à payer, c'est-à-dire que non, mais faut être factuel. Économiquement, c'est un vrai problème. C'est le risque d'émeute. Le gouvernement veut, il peut décider de démanteler l'ensemble des points de deal de France.
On est d'accord.
Ok, il le fait, très bien. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui va se passer derrière?
Il faut que le mal triomphe sur le bien. En gros, c'est un peu ça.
C'est un choix politique.
L'autorité,
c'est-à-dire l'uniforme des personnes qui. Enfin, je veux dire, l'autorité, c'est enfin la France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'uniforme et le côté bien de la chose doit baisser la tête. Rien faire, se taire ou faire semblant de, sous prétexte que les forces du mal, en l'occurrence, c'est-à-dire les dealers, la mauvaise graine et tout ce qui va avec, peut se rebeller et faire des émeutes. En fait, c'est ça.
Cédric, moi, j'ai.
Oui, mais c'est un choix. Faut le décider.
Là où je rejoins ce qu'a dit Cédric, moi, je me souviens dans les années, en 97, je crois que c'était l'Obs, me semble-t-il, il y avait une première page où il y avait marqué les cités où la police ne va plus. Oui. C'était déjà une question qu'on posait en 97. En 97. D'ailleurs, il y avait une chanson. Je crois que c'était de Passy, sur un film qui s'appelait Ma cité va craquer. Il disait bienvenue dans les cités où la police ne va plus. Oui. Il y avait une phrase comme ça. Donc c'était un truc qui était connu. Il y avait déjà des cités où la police ne rentrait pas en 97. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est la première chose, c'est je crois pas qu'il y ait une vraie politique de démantelage, une politique de maintien de l'ordre concernant les démantelages de points de deal. Je crois que ça n'est que ça. Il y en a une, mais je sais pas s'il y a un mode d'emploi, une application réelle, je crois pas.
Le ministre intérieur va te dire que oui.
Alors il va te dire que oui, on va ramener les CRS, comme tu dis, en grande pompe, la télé, puis après ils repartent et l'économie informelle se reconstitue. Et puis après, même dans des pays qui ont été bouffés par les narcotrafiquants, comme par exemple le Mexique,
eux-mêmes
ils n'ont pas eu la solution.
La Colombie, qui est en train de remonter la pente.
Le Mexique, ils ont mis l'armée dans la rue. Ils ont mis à un moment l'armée dans la rue. Ils ont dit on va mettre l'armée là, on va taper fort. Et ben en fait sur les années où ils ont mis l'armée, les points de deal ont été multipliés par deux. Donc même ça,
Colombie qui a réussi et d'ailleurs qui est en train de réouvrir le tourisme. Et eux ils ont pris un autre parti, c'est-à-dire que eux ils ont fait des accords avec les narcotrafiquants, ils ont trouvé des compromis et ça a l'air de tenir, mais la Colombie, en tout cas,
merci à Cédric d'avoir été avec nous.
Avec le diable.
Ouais, mais tiens, alors là, parce que Cédric et Thomas racontaient déjà ce qui se passait dans les années 80. Les amis, je vous conseille de regarder les reportages en ce moment et de lire aussi l'enquête du Monde et de regarder sur TF1 ce qui se passe aux États-Unis avec le fentanyl, qui est une drogue qui défonce pendant une demi-heure. Elle coûte $3.
C'est la drogue des zombies.
$3. Ouais. Encore moins cher que le crack. C'est la drogue des zombies. Philadelphie, San Francisco
complètement.
C'est dément.
Ouais. Ils ne ressentent plus rien.
Ils sont entre 8000 et 10 000 personnes défoncées quotidiennement qui traînent sur les trottoirs et au milieu de la rue et qu'on n'arrive pas à récupérer. Et ça, la pilule, ça va arriver. À 3 euros. Hein. Ouais. 3 euros la défense, tu vas avoir. Wari est avec les GG. Bonjour Wari.
Bonjour les GG.
Alors,
bonjour,
et vous Wari, du côté de la Seine-Saint-Denis, quand voyez ce qui se passe, ce que nous a dit Cédric, ce qui se passe à Nîmes, comment vous réagissez, dites-moi.
Ben nous, on vit ça depuis des années, depuis des décennies. On est en train de crier à tous les ministres de l'Intérieur. Depuis des décennies, il n'y a aucune politique pour régler ces problèmes de drogue. Il n'y a aucune politique nationale. Des fois, nous mettons un petit pansement, nous envoyons le CRS. Les CRS, ils sont là, ils ne bougent pas, donc ils ne font rien. Nous, on manque cruellement de policiers. On a 200 policiers au commissariat de Saint-Denis. Nous sommes une ville de 120 000 habitants. Nous avons grosso modo 100 000 personnes qui arrivent en plus chaque jour, entre les universités, les transports. Nous avons 200 policiers, nous en avons besoin de 400 à 500. Donc il nous en manque 300. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Oui, mais vous savez, vous en avez assez quand on compare. Mais non, nous sommes une ville avec des problèmes. Nous avons des problèmes sociaux, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes de délinquance. Donc parfois il faut moins de policiers dans certains endroits, parfois il en faut plus. Donc on ne cherche pas à résoudre ce problème-là. Et nous, la Seine-Saint-Denis ou Saint-Denis, nous sommes vraiment un laboratoire. Nous pouvons régler tous les problèmes de France en réglant les problèmes de Seine-Saint-Denis. Je pense qu'au niveau national, tant que le gouvernement ne prendra pas les mesures répressives, je ne parle pas des mesures sociales, tout ce qui est en amont, mais à la fin, tout ce qui est à la fin répressive ou éducative, donc plus de policiers, plus de juges, plus de greffiers, etc., 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 on ne réglera jamais ce problème. C'est un problème de fric.
Oui, mais Wari, vous avez raison, c'est vrai. Mais imaginez, on passe par l'étape de la répression pour après pouvoir gérer sereinement les questions sociales, d'éducation, territoriale, etc. Vous imaginez une période répressive en Seine-Saint-Denis ? Mais vent debout, on aurait l'extrême gauche vent debout, c'est honteux.
Politiquement, c'est pas payant.
Politiquement, ça.
Je pense que politiquement, il y a trop de risques à prendre.
Mais oui,
un risque effectivement d'avoir des émeutes.
Mais bien sûr.
Pour un gain, t'es pas sûr que ça fonctionne.
Et puis on a l'opposition qui créerait la stigmatisation.
On lui dira c'est un scandale. Donc moi, je pense que politiquement, il préfère ne pas bouger.
Depuis des années, les responsables politiques.
Il y a que les habitants qui peuvent le demander.
Peut-être qu'on en serait pas là.
Ok, parce que vous dites là.
Non, mais Wari.
Mélenchon et Corbière et tous les filles ou disent on n'est pas content, alors il faut rien faire.
Voilà, je suis d'accord avec vous. Surtout
que ces gens-là, ils ont été dangereux parce qu'ils ont pris les postures politiques depuis des années.
Non, mais je suis d'accord avec Wari, il a raison.
Non, mais pardon, Wari, je ne ciblais pas forcément Mélenchon. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est pas politique électoralement, c'est pas payant pour Emmanuel Macron.
Oui, mais pour que ce soit payant, Wari, il faudrait que les habitants, justement, se mobilisent.
Parce que moi, je viens à Saint-Denis, je vous parle des véritables problèmes. J'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je suis à Saint-Denis. Nous avons en ce moment, entre guillemets, excusez-moi, c'est péjoratif le mot, tous les clandos qui viennent et ils vendent les pilules. Les pilules à 1 euro, 2 euros, ce qu'ils appellent ça. La joyeuse ou le fusil. C'est-à-dire que vous prenez la pilule, vous décollez. D'accord ? Ils vendent ça à 1, 2 euros. Nous avons les problèmes de drogue. Nous en avons partout. Vous parlez du point de deal à Nîmes. Nous en avons peut-être 50, 100 à Saint-Denis. Nous, on subit les violences, les agressions, les viols. Là, il y a eu encore une arrestation. Là, il y a eu un kilo d'héroïne qui a été saisi il y a un mois, il y a une journée. Vous nous parlez de Macron, de Mélenchon, mais nous, vous oubliez les 120 000 habitants.
C'est vrai, c'est à vous de. Vous avez raison.
Comme il dit, en fin de compte, on prend les problèmes séparément. Je pense que le problème de la drogue, c'est lié aussi en partie au problème de l'immigration, au problème de plein de choses. Et on dissocie toutes les étapes. Et quand tu regardes dans certaines régions de France, notamment en Île-de-France, t'as des tribunaux qui sont engorgés à plus de 60% juste pour défendre le droit des étrangers. Comment tu veux que les dossiers avancent ? Donc il y a un moment, il faut. C'est un ensemble. Tu peux pas prendre le problème de la drogue, l'autre à côté,
C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai dit, on retire tout ce qui est en amont, etc. Là, on parle que du côté répressif. Je ne parle pas des tribunaux surchargés, je ne parle pas de...
Bah oui, mais ça aide. C'est si on peut pas juger les gens.
C'est un ensemble, ça. Je sais que c'est un ensemble. Là, j'ai parlé juste d'une partie.
Mais vous avez dit quelque chose d'important, Wari. Il a dit un truc important. Il a dit, mais nous, les habitants, qui pense à nous? Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dénonce ce que peuvent vivre les habitants en insécurité, quand la gauche, il a fallu qu'elle parle de la sécurité des habitants des quartiers populaires, en fait, c'était un tabou. Il fallait pas dire que dans ces quartiers-là, mais pourtant, il y a 90% d'honnêtes gens qui ont envie de travailler, qui ont envie qui ont besoin de sécurité.
Attends, quand même, si en amont, il y a une présence de l'État visible, je pense que l'économie informelle se développe beaucoup plus difficilement.
Merci Wari de ce témoignage en direct de Saint-Denis, mon cher Wari. Bon. Merci d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de reprendre la discussion, j'en suis sûr. Alors, les dealers font-ils aussi la loi dans les villes moyennes? Quel est votre sentiment là? Comment vous réagissez? C'est un oui à 90% pour ceux qui nous ont suivis, qui ont écouté notre discussion. À suivre dans les GG avec Thomas Porcher, avec Johnny Blanc et avec Zora Bitan. Le on s'en fout, on s'en fout pas. La bataille des retraites, dernière manifestation en date, c'était hier. Est-ce qu'Emmanuel Macron a gagné? Pôle emploi devient France Travail. On s'en fout ou pas? À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules tous les jours avec vous bien sûr, 9h midi, on discute, on débat, nous sommes ensemble aujourd'hui avec Zora Bitan, cadre de la fonction publique, nous sommes accompagnés de Johnny Blanc, chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres et Thomas Porcher, le professeur d'économie, il est 10h20, c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Et d'abord, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire.
On s'en fout.
Non, à Eric. Eric qui passe 3 heures. Vous ne le connaissez pas, ami auditeur.
Bon anniversaire aujourd'hui.
Oui, voilà. Il passe 3 heures avec nous tous les jours. C'est lui qui s'occupe de la grue sur le plateau de RMC Story, qui filme.
Le renard argenté.
Filme vous,
les
GG. Alors,
il passe plus de temps.
Eric vient.
Ah, il est dit, il m'a rien dit, il nous dit rien. Allez, ce matin.
Il a une chevelure magnifique.
Ah ouais. C'est rechargir. Il a plus de temps à se coiffer qu'à faire les gilets.
Bonjour à tous.
Bon anniversaire.
Merci beaucoup.
Et c'est grâce à Eric qu'on a une si belle émission en technique aussi, sur le plateau.
Eric n'est pas qu'avec nous, tu officies dès quelle heure? Avec Apolline.
Apolline, oui, tout à fait. Oui.
Et Charles?
Et Charles matin de 6h à 6h30 et de 6h30 à 8h30. Et ensuite avec vous, avec plaisir.
Et donc tu as quel âge?
Non, tu dis
j'ai
pas.
J'ai 63 ans.
Ah. C'est pas vrai.
Gardez-moi ça. Vous avez eu un peu de travail, ça maintient en forme.
Donc encore un an, c'est la retraite?
On verra bien, Olivier, on verra bien. Vous aussi d'ailleurs, non?
Oui.
Il a pas
j'aimerais bien partir à la retraite, mais j'ai encore quelques années à faire.
Bon anniversaire, Eric.
Merci. Bon, tiens, justement.
Saluez tous ceux qui œuvrent et qu'on ne voit pas à réaliser les grandes gueules.
Parlons retraite, les GG. Le mouvement contre la réforme des retraites touche-t-il à sa fin? La 14e journée hier a beaucoup moins mobilisé. Plus faible mobilisation depuis le début de la contestation. 900 000 manifestants partout en France, selon la CGT. 281 000 selon le ministère de l'Intérieur. Macron semble bel et bien avoir gagné la bataille. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
On s'en fout pas.
Johnny?
On s'en fout pas.
Et on s'en fout pas.
Thomas?
Non, on s'en fout pas. Et puis là, c'est vrai que la mobilisation a baissé, mais quand même, malgré tout, ça reste une mobilisation importante. Quand on lit la presse étrangère, par exemple, Bloomberg a révélé que le pays où il y a eu le plus de grèves dans le monde ce semestre, c'est la France.
Et le moins de touristes à Paris. On est les champions.
Mais donc, ça veut dire qu'il y a une vraie contestation.
Oui, mais on doit s'en féliciter.
Non, mais après un mois, s'il y a toujours autant, même si on est dans la tranche basse, autant de monde, c'est qu'il y a eu quand même une volonté, enfin que les gens sont contre. Il faut que l'on entende.
On saura les GG mardi prochain si l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée.
Non, mais franchement, mais bien sûr, Macron a gagné la bataille. Ils vont peut-être commencer à bosser ses opposants et passer à autre chose parce que foutre le bordel, ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie. Donc champion du monde des grèves, la honte, restaurants fermés, les commerces qui bossent pas, les touristes touristes qui veulent plus venir parce que on crame tout, parce qu'il y a les gilets jaunes. En fait, ça fait des années que Paris, ça commence à descendre dans les villes les plus. Bah, c'est bien. On va devenir les clochards de l'Europe.
Mais la faute à
qui? Le tiers-monde de l'Europe. Non, mais ah, c'est bah, bon. Il faut réformer ce pays. En plus, c'est quand tu regardes dans les détails, c'est pas une réforme brutale, violente. Ça aurait pu être pire. Bon, voilà. C'est 64 ans. On va pas mourir. Faut arrêter. Faut arrêter.
Ça commence à me chauffer, moi,
cette histoire de grève. Tu vas dire qu'il est logique que dans notre pays, les gens à 25 ans arrivent pas à finir leur fin de mois et ils descendent dans la rue pour leur fin de carrière. Mais on est dans un pays de cinglés. Je veux dire que moi, qui jamais j'ai manifesté de ma vie, je pense qu'il y aurait une manifestation pour le pouvoir d'achat, pour le prix de l'énergie, tout ça. Mais là, je peux descendre dans la rue. Certainement pas pour me dire tu vas bosser deux mois de plus à la fin de l'année que j'en ai à foutre.
Mais t'auras ni le pouvoir d'achat et tu bosseras deux ans de plus.
Bon, les GG, mise en cause pour sa gestion du fonds Marianne, le préfet en charge de sa gestion a démissionné hier soir suite à la publication du rapport de l'inspection générale de l'administration. Rapport aux conclusions accablantes, traitement privilégié, défaut de vigilance ou encore défaillance. Oui. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Thomas?
On s'en fout pas.
Zora?
On s'en fout pas.
Johnny?
On ne s'en fout pas.
Zora?
Bah, c'est triste pour le comité interministériel de prévention de la radicalisation, qui est une instance importante et précieuse dans les combats que nous menons. Voilà, c'est quand on regarde de près, quand on regarde de très près, ce fonds Marianne, c'est un fonds qui a été labellisé Marianne, mais il fait partie d'une enveloppe qui existe depuis des années, et on ne parle pas des 99% d'associations qui, depuis des années, sont financées, font un excellent travail, et du coup, on regarde ce problème qui vient de surgir pour aller taper sur le combat contre la radicalisation, contre le séparatisme. Donc, il faut que les gens retiennent que la lutte contre le séparatisme est un vrai combat, et que cette histoire ne doit pas occulter le fait qu'on a besoin de continuer le combat.
De quoi il s'agit? Un reproche, finalement?
Oui.
La distribution.
Un manque de vigilance.
La distribution un peu aux copains d'un fonds qui était prévu
pas
pour lutter contre la radicalisation. Mmh. Donc il y a une enquête, tout le monde avait bien sûr présumé innocent, mais le préfet qui démissionne, alors je ne dis pas que c'est un aveu, mais c'est vrai que moi j'ai lu le rapport, il est accablant quand même.
Oui,
hein.
Accablant.
Non, mais c'est vrai qu'on ne s'en fout pas, effectivement il faut attendre de voir ce que prouvera ou pas l'enquête, mais il est vrai que je pense qu'il serait aussi temps dans notre pays que tous ces fonds qui existent et qui sont abondés quand même par le contribuable en grande partie, soient un peu mieux surveillés.
Oui,
parce que
mais regardez,
on distribue un peu quand même.
Non, mais regardez, il y a eu 300... Non, mais il faut remettre regardez, il y a eu 350 000 euros sur un fonds de 2 millions, mais c'est pire que ça, c'est un fonds de 63 millions qui abonde un certain nombre d'associations, le FIPDR. Non, mais c'est important de dire que 99% des fonds sont bien utilisés. Oui. Voilà, c'est important
c'est pas le sujet.
Oui, parce que ceux qui sont contre, justement, ceux qui érigent ce problème en disant oui, regardez, la lutte contre le séparatisme est une arnaque, c'est islamophobie. Mais ça veut dire que les opposants s'engouffrent.
Oui, mais c'est justement, c'est pour ça qu'il faut être.
Il faut être nickel. Et ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça, je suis d'accord avec vous.
Il ne faut pas que le militantisme devienne un business.
Mais bien sûr. Ni le militantisme, ni les.
Dans ce pays qui dépense sans compter de l'argent public.
Mais je suis d'accord avec vous, bien sûr.
Il faut faire l'état des lieux. Dans toutes les collectivités, l'argent donné aux associations.
Mais bien sûr.
On a vu à Paris, il y a eu des dérives où on donne de l'argent à des copains. Enfin, à un moment donné,
je ne remets pas ça en cause.
Le problème, c'est que le statut de l'association loi 1901, qui est vrai pour la petite association du comité des fêtes du village, bientôt c'est le même statut que pour une autre truc pour 1 million d'euros.
On est d'accord.
Les GG. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi pour le plein emploi qui doit donner naissance à France Travail, successeur de Pôle emploi.
Successeur lui-même de l'ANPE.
Exactement. Le but, entre autres, c'est de mettre en place un accompagnement plus personnalisé, puis un accompagnement aussi plus directif des allocataires du RSA. Pôle emploi, rebaptisé donc France Travail. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Thomas?
On s'en fout pas.
Sora?
On s'en fout pas.
Johnny? Alors,
moi, je m'en fous qu'on le change de nom parce que ça sert strictement à rien. Par contre, je m'en fous pas de ce qui est devenu ce.
Bon, alors, Johnny, vas-y.
T'es lancé?
Écoute, je vois comment sont traités les dossiers là-dedans. Pour te donner un exemple très simple. Moi, par exemple, je fais 4 offres d'emploi. Je reçois 12 CV. Qu'on m'envoie, je vais pas les chercher. Quelque part, je veux dire, sur les 12 que je convoque à un entretien d'embauche, j'en ai 2 qui se déplacent. Sur ces 2 personnes, je leur fais un CD directement, j'en ai aucun des 2 qui vient embaucher.
Je dis,
ça ne peut plus durer. J'appelle Pôle emploi et je leur dis, écoutez, vous êtes gentils, mais là, tous ces gens-là, qui sont inscrits, là, comment ça se fait? C'est ce qu'on me répond. Si vous croyez que c'est si simple,
voilà,
mais excusez-moi, je croyais chercher du travail.
France Travail, ça va changer.
Non, mais je vais répondre.
C'est ça qui est plus possible.
Non, mais justement, je vais répondre. L'intérêt, justement, j'ai lu le projet de loi et en fait, l'intérêt de France Travail, c'est justement de pour mettre fin d'abord. D'abord, la question, c'est de regrouper en une seule entité, c'est-à-dire avec les missions locales qui ont quand même un rôle très important dans l'insertion des 16-25 ans, c'est de regrouper en une entité de manière à ce que les gens soient plus promenés et qu'il y ait aussi une espèce de connexion entre toutes les prestations que tu reçois. Et quand aujourd'hui, quand tu es... Mais si, parce que du coup, tu n'as qu'un interlocuteur et du coup, tu es connecté sur tous tes droits. Donc déjà, un, tu ne perds pas tes droits et quand tu as des droits sociaux qui peuvent être ouverts, ils sont ouverts au bon endroit et du coup, ils sont connectés entre eux. Et en plus, les gens qui perçoivent le RSA vont être obligés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'être inscrits à Pôle emploi et de se montrer et d'avoir des propositions d'emploi. Sinon, on leur supprime le RSA. Donc, il y a plutôt des choses qui vont dans le bon sens. Arrêter justement de faire en sorte de laisser des gens dans la nature et de répondre aux employeurs qu'on ne sait pas, etc.
En fait, j'aurais pu dire je m'en fous parce que la logique ne change pas. Ça va être toujours la même chose. On va essayer de faire des économies en disant voilà, au RSA va faire 7 heures d'emploi ou on va diminuer les indemnisations. Mais ce qui est marrant, c'est les noms. Vous savez que Pôle emploi, quand tu le traduis en anglais, c'est Job Center. Et Job Center, c'est comme ça qu'on appelait les Pôle emploi aux États-Unis. Donc on a copié une première fois, puis là on se dit oh, bon, on va changer de nom pour faire genre, on change. Mais bon, c'est toujours un peu de l'emballage. Mais, oui. Mais le fond est toujours la même chose, quoi. Le fond, c'est toujours un peu la même
chose. Ça veut dire ça ne marche pas?
Non, ça marche pas très bien. Non, ça marche pas. Les politiques de l'emploi, les politiques de l'emploi.
Non, il y a un vrai changement.
Alors là, il y a le cas de Johnny, effectivement, d'une partie des jeunes qui ont un rapport au travail qui a changé. Et là, il faut le prendre en compte.
France travaille pas beaucoup.
Mais depuis 20 ans, on individualise la question du chômage. On dit voilà, t'es au chômage parce que tu le veux. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Les fortes hausses de chômage, elles sont toujours dues à un événement. Pendant le Covid, il y a une forte hausse de chômage.
Je suis pas d'accord avec toi, Thomas.
Attends.
En 2009, au chômage quand parce que tu le veux, oui. Parce que je peux dire qu'il y a un paquet de gens que je connais. Il y a tant qu'ils ont des droits, ils sont au chômage, qu'ils n'ont plus de droits comme par hasard.
Oui, mais c'est plus compliqué que ça parce que il y a 1,5 million de chômeurs en plus entre 2009 et 2015. Ça a commencé à partir de 2009 parce qu'il y a eu la crise de 2008.
Là, si j'ai bien compris, dans la réforme, il y a la volonté de pousser ceux qui touchent le RSA vers France Travail parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux n'étaient pas inscrits à Pôle emploi. Or, le RSA, c'est censé être un moment de ta vie pour éviter de tomber vraiment par terre, mais le A de activité, il doit jouer aussi.
Et là, en fait, tu auras trois offres d'emploi convenables, et puis si tu les refuses, tu seras radié et tu auras un chômeur en moins.
Ce qui existe déjà, les trois offres d'emploi raisonnables.
Tu auras les 6-7 heures à faire, bon, bref.
Merci Anaïs. Dans un instant, selon plusieurs études qui viennent d'être publiées, le système fiscal actuel favorise visiblement les plus fortunés, ce qu'on appelle le déséquilibre fiscal. Vous pouvez être ultra riche et payer moins d'impôts simplement par le jeu des barèmes, moins d'impôts qu'un cadre supérieur. Donc il y a un souci. Donc est-ce qu'on taxe davantage les ultra riches? On en parle avec vous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.